Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures qui entreront en vigueur à partir du 21 juillet pour inciter à la vaccination et freiner ainsi la progression du variant Delta en France. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale, a déclaré Emmanuel Macron le lundi 12 juillet dernier. Que la vaccination contre le Covid-19 allait devenir obligatoire pour le personnel soignant et que le pass sanitaire allait être élargi dès cet été afin de freiner la progression du variant Delta du Covid-19 en France. Ces mesures de renforcement de la vaccination vont s'appliquer en plusieurs étapes. Alors, comme le virus, les restrictions de liberté mutent. À partir du 21 juillet, donc, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. À compter du mois d'août, le pass sanitaire devra être réclamé pour entrer dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, les transports de longue distance. À eux de contrôler les QR codes des clients et patients, lus par une application dédiée, verte ou rouge, si le test PCR est trop ancien ou la vaccination trop récente. Aux forces de police et de gendarmerie de contrôler la réalité de ce tri sanitaire de la vie sociale. Pour les récalcitrants, c'est 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Policiers et gendarmes ne sont, eux, obligés à rien, ni à la vaccination, ni au test PCR. Le pouvoir ne veut pas froisser ceux qui doivent faire régner l'ordre sanitaire. Un symptôme de plus de la dérive autoritaire du pouvoir. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi leur refus d'obtempérer dans une dizaine de villes en France, à l'avant-veille de l'adoption en Conseil des ministres d'un nouveau projet de loi sanitaire, celui de la quatrième vague, qui devrait être adopté par le Parlement dans la foulée. Outre la vaccination obligatoire des soignants, ce texte comprend un isolement contraint des cas positifs. Objectif du président de la République, aller vers la vaccination de tous les Français. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Face au virus, il y a les bons et les mauvais Français, nous dit Emmanuel Macron. Pour le moment, l'annonce est efficace, les centres de vaccination sont pris d'assaut. Le 13 juillet, plus de 850 000 doses de vaccins ont été administrées. Le 15 juillet, près de 780 000. Le 16 juillet, près de 880 000. Des chiffres sans précédent. De quoi vider un peu les frigos dans lesquels dormaient des centaines de millions de doses inutilisées depuis des semaines, le nombre de nouveaux candidats au vaccin chutant dangereusement depuis le mois de juin. La France accuse un inquiétant retard dans la vaccination sur ses voisins européens, en particulier parmi les classes d'âge les plus élevées et les plus à risque de formes graves. Le Conseil scientifique l'a constaté dans son dernier avis. Alors, la fin justifie-t-elle les moyens ? L'Emmanuel Macron du mois d'avril ne le pensait pas. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou aller chez des amis. L'Emmanuel Macron de décembre 2019 excluait même fermement la vaccination obligatoire. Celui du 12 juillet a agité la menace et, dans les faits, tellement compliqué la vie des non-vaccinés que ceux-ci peuvent se sentir légitimement contraints dans les faits. En quelques mots, le 13 juillet, la chancelière allemande Angela Merkel a pointé la limite de cet exercice erratique du pouvoir français en temps de crise sanitaire. « Je ne pense pas qu'on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit, c'est-à-dire pas de vaccination obligatoire. » Elle invite plutôt les Allemands à devenir les ambassadeurs du vaccin à partir de leur propre expérience. Alors, pour débattre de tout cela et parler à bâton rompu de tout ce que pensent les citoyens sur notre territoire, j'ai invité autour des micros des membres du collectif Réinfo Covid 46, ce collectif qui est composé de soignants, médecins, scientifiques, universitaires, mais aussi de citoyens sans étiquette professionnelle. Ce collectif, choqué par la politique actuelle et par un panel de mesures sécuritaires, agit pour une politique sanitaire juste et proportionnée pour la France. Ils demandent donc leur suspension et le rétablissement d'une prévention fondée sur la connaissance et l'expérience de longue date des épidémies en médecine, comme l'isolement des malades symptomatiques, précautions d'hygiène standards en population générale et des précautions renforcées pour des sujets fragiles. Autour des micros, nous avons Catherine Rouillon, qui est sophro-analyste et naturopathe, et Hervé Vautin, maraîcher et formateur en permaculture. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Savoir en tant que citoyen ce qui vous a fait réagir et pourquoi vous avez rejoint ce collectif aujourd'hui.
Alors, je commence. Ce qui m'a fait réagir, c'est que dès le départ, pour moi, il y avait quelque chose qui clochait. Si on prend la situation à l'origine, j'entendais à la radio tous les matins, dans ma voiture, une comptabilité morbide et tous les jours, matin et soir, des chiffres de gens touchés, de morts, de morts, de morts. Et ça me surprenait beaucoup parce qu'on était quand même en janvier, en février, et cette comptabilité morbide se poursuivait sans que rien ne soit proposé. Et sans que l'on parle, sur les grandes chaînes médiatiques, des causes, de soins envisageables, de mesures mises en place, rien du tout. Donc moi, pour moi, ça commençait à tiquer et il y a un grand mot qui a été vraiment le maître mot depuis quasiment bientôt 2 ans, c'est « pourquoi ?». Et j'en suis toujours à ce « pourquoi ?». Et aujourd'hui, la réponse, à mon avis, commence à s'esquisser. En tout cas, il a fallu qu'à partir de ce moment-là, en 2019, je cherche une information juste, une information véritable. Et j'ai commencé à me tourner vers d'autres médias. Des médias qui aujourd'hui sont largement censurés, des médias qu'on n'entend pas. Et j'ai commencé à prendre la mesure que j'avais déjà largement comprise dans le cadre de ma profession, de la corruption systémique générale sur tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire, il s'agit d'une crise systémique qui touche absolument à tous les niveaux. Et voilà pourquoi j'ai été ravie d'apprendre que Réinfo Covid était créé à Figeac, parce que jusqu'à aujourd'hui, et j'y suis vigilante, les termes, les idées, les propositions de ce collectif me parlent, me conviennent et répondent à mes attentes.
Hervé ?
Très bien, ben moi... J'ai rejoint le collectif Réinfo Covid pour deux raisons, on va dire. La première, c'est que moi, je trouvais qu'il y avait une incohérence qui me choquait dans le discours, on va dire, entendu partout. Et un manque de confiance en nos gouvernants qui semblait faire croire qu'ils s'occupaient de la santé des Français. Sachant que quelques mois avant, ou quelques mêmes années avant, ils s'en sont absolument pas préoccupés. Et notamment, moi, dans mon domaine, ce qui m'a choqué, c'est que le gouvernement qui s'était engagé à notamment arrêter les pesticides en France, qui fait bien plus de morts, malheureusement, tous les ans, que toutes les épidémies qu'on peut subir, ça se traduit par des cancers, ça se traduit par des maladies immunologiques, ça se traduit par énormément d'effets secondaires. Et là, les comptabilités choqueraient un peu plus les gens. Et ces mêmes-là disent d'un seul coup, finalement, je ne vais pas appliquer la mesure, on va continuer les pesticides et on va en prendre encore pour longtemps. Et de l'autre côté, ils vont nous dire, mais on s'occupe de votre santé, parce que là, il y a une épidémie grave. Donc moi, j'avais déjà une perte de confiance, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche là. Et donc j'ai été chercher de l'information ailleurs, effectivement, pour savoir ce qu'il en était vraiment. Est-ce que cette épidémie était vraiment grave ou pas grave? Est-ce que effectivement il n'y avait aucun moyen de soigner? Est-ce que, etc. Et donc ça, c'est... Et puis après, je me suis rendu compte que la deuxième raison pour laquelle j'ai rejoint, c'est que je me suis rendu compte que effectivement cette information juste, qui bon, en tout cas beaucoup plus juste, et qui permet de... En fait, l'approche de Réinfo Covid, c'est pas de dire il y a une information juste ou pas, c'est de donner tout le panel de l'information à toutes les personnes de la documenter un maximum possible et de laisser les gens se positionner par rapport à ça. Donc ça, ça m'a bien plu déjà de dire, voilà, on ne vous, il n'y a pas un discours qui va emporter sur l'autre, on vous donne toutes les infos et à vous de décider. Et en fait, ce discours-là, ben, on le trouve nulle part ailleurs. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, il faut s'investir et aller informer les gens qu'il n'y a pas qu'un seul discours, quoi.
Alors justement, vous parlez d'aller chercher de l'information. Où aller chercher cette information, justement ?
Alors, pour ma part, je l'ai cherchée sur Internet. J'ai définitivement débranché ma télévision. J'ai tenté l'autre jour courageusement d'écouter le discours présidentiel, mais au bout de 3 minutes, j'ai craqué. Donc, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Chaque fois que j'entends un média lambda, ça ne passe plus du tout, du tout, du tout. Donc, je suis allée chercher cette information un peu au pif sur Internet. Et en fonction de ce que j'entendais, et surtout des sources documentées dont parlait Hervé, des sources que je vérifiais à chaque fois, ça a pris des heures, hein, tout ça, c'est énormément de temps, je me faisais ma petite idée. Toute petite au départ, et puis qui s'est élargie au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis sidérée par l'ampleur. Et je suis loin de tout savoir, c'est évident. Si j'ai atteint 10% de connaissance de la situation, c'est déjà pas mal. Mais je suis sidérée par l'ampleur, mais c'est vraiment systémique, de cette désinformation. Voilà. Donc, moi, je suis allée chercher sur Internet, clairement.
Alors, pour être plus précis, moi, également, on va chercher sur Internet, parce que par la télévision, malheureusement, il n'y a plus de chaîne qui ait un discours, on va dire, qui ne soit pas gangréné par des conflits d'intérêts. Mais par contre, il existe encore des journaux qui le sont, et avec des vrais journalistes. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, France Soir, qui est un journal qui affiche son indépendance et qui dépend d'aucun financement par des groupements d'intérêts financiers. Donc, ils sont essentiellement, ils touchent un peu de subventions parce qu'ils sont quand même reconnus comme un journal officiel, hein, des minimums d'information, mais ils touchent essentiellement leur argent des citoyens qui investissent dans cette information. Et puis, du coup, Info Covid a créé quelque chose de très bien, qui s'appelle le Conseil scientifique indépendant, donc qui délivre une émission à peu près toutes les semaines. Généralement, c'est le jeudi. Et ce conseil scientifique indépendant, il est constitué de scientifiques, essentiellement, qui affichent leur indépendance et tous doivent confirmer. D'ailleurs, ce qui devrait être la généralité, hein, quand un journaliste interroge quelqu'un, il devrait lui demander s'il a des conflits d'intérêts. Donc là, nous n'avons aucun conflit d'intérêts, évidemment. Et donc, pour savoir si la parole elle est libre ou pas. Et donc, ce journal fait ce travail. Et puis le CSI donc a invité des scientifiques. Et il y a des scientifiques de tous bords. On va trouver des statisticiens, des anthropologues, des médecins, des urgentistes. Des chercheurs qui vont délivrer une information issue de leur recherche et de leur travail, avec des chiffres à la clé, et nous permettre de ensuite se positionner sur les différents éléments.
Alors justement, pour pouvoir se positionner sur ces différents éléments, il faut avoir une vision peut-être plus globale de ce qui se passe, et pas rester sur notre petit territoire lotois ou français, mais peut-être aller voir un petit peu ailleurs dans le monde. À votre avis, est-ce que la situation est identique dans les différents pays et qui, parmi les différents gouvernements, aurait la palme, de la meilleure gestion de la situation ?
Personnellement, je ne saurais pas le dire, et puis je me garderais bien de le dire. Mon sentiment... Globalement, c'est que plus les pays sont riches et plus ils sont poussés dans l'entonnoir vaccinal, plus ils sont pauvres, plus ils sont allés aux soins. On a vu ça avec l'Afrique, avec l'Inde. L'Afrique a eu des résultats très intéressants avec des traitements préventifs et des traitements précoces. Ils ne sont pas du tout dans le tout vaccinal, à ma connaissance. Et les résultats sont très intéressants. Ce qui s'est passé en France, en tout cas particulièrement en France, c'est qu'on n'a jamais envisagé le soin. On a écarté largement dès le départ la possibilité du soin, avec une fois de plus une propagande anti... Je n'ai aucune connaissance sur les traitements, que ce soit le traitement qu'on a appelé Raoult, qui n'est pas le traitement Raoult, mais l'hydroxychloroquine associée à l'antibiotique largement connue, largement pratiquée, des techniques qui avaient plusieurs décennies, avec plusieurs décennies de recul, sans effet secondaire, qui ne coûtaient pas un sou. Ça a été soigneusement écarté. Par ailleurs, on a quand même acheté pour des milliards d'euros le fameux produit dont j'ai oublié le nom. Peu importe, tout le monde en a entendu parler, qui avait été reconnu comme toxique. Donc on a soigneusement écarté, fait en sorte que tous les traitements précoces soient écartés de façon à valider le tout vaccinal. Parce que le tout vaccinal, l'obligation vaccinale, ne s'appuie, n'est réalisable qu'à partir du moment où il n'y a pas de technique de soins, où il n'y a pas de soins possibles. Donc en France, on a fait ça. Dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Hein. Mais en France, ça a été particulièrement fort. Oui, d'autant plus qu'on continue en France à fermer des lits d'hôpitaux. C'est quand même quelque chose qui est à souligner. Ça, bien entendu, la presse lambda ne va pas en parler. Mais on continue actuellement à fermer des lits d'hôpitaux. Je crois que le chiffre, c'est 2000 lits d'hôpitaux fermés depuis janvier 2021, ce qui est quand même assez surprenant compte tenu de la parole politique, comme dit Hervé, c'est pour votre bien qu'on vous fait vacciner. On va peut-être commencer par la base, c'est-à-dire commencer par soigner et par ouvrir les lits d'hôpitaux, par payer les soignants correctement, par les traiter correctement, plutôt que de les désigner, comme on est en train de le faire, comme les responsables de la contagion actuelle, d'un variant qui, somme toute, semble assez peu létale. Enfin, la parole politique est complètement déviée et personnellement, je ne peux pas y adhérer, quoi. Ce n'est pas possible.
Moi, je voulais aussi aborder une face un petit peu plus, on va dire, politique cachée de ce mouvement. Réinfo-Covid, je parle. On entend souvent le nom de Louis Fouché qui est... Dans ce mouvement. Je pense qu'il est même peut-être à l'origine de ce mouvement.
Bah, il n'est pas le seul à l'origine, oui. mais en fait, il a été le porte-parole. Donc du coup, c'est celui qu'on a entendu le plus, évidemment, puisque c'était son rôle d'être le porte-parole du collectif Réinfo-Covid.
Voilà, un personnage assez controversé aujourd'hui et qui a eu des positions assez extrêmes vis-à-vis de l'avortement et de la manif pour tous. Maintenant, est-ce que cette personne est, on va dire, crédible dans ce collectif ? Est-ce que c'est une personne parmi d'autres personnes faisant partie du collectif ? Voilà, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre ressenti là-dessus.
Alors attention, parce que moi, je ne connais pas les points de vue... personnel de Louis Fouché. Ce qui m'intéresse chez lui, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, ce sont ses idées, c'est l'information juste, justement, qu'il essayait de proposer. Ce sont des points de vue fondés sur des chiffres factuels, une autre vision du monde et de la situation, une philosophie, etc., etc. Attention à un truc que j'entends dans votre question, et c'est bien que vous la posiez, c'est qu'on a un petit peu tendance actuellement, je trouve, partout, à être dans un politiquement correct. Il faut toujours être soit le bon, soit le mauvais. C'est un pack. Une personne, ce n'est pas un pack. Une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit pour Louis Fouché, pour Hervé, pour moi, pour vous, pour tout le monde, nous sommes des êtres à facettes. Nous sommes des êtres à prisme. Et je ne vois pas pourquoi, justement, c'est ça qu'on défend, il n'aurait pas le droit d'avoir des idées qui ne sont pas forcément les miennes. Et c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la situation aujourd'hui. Après, comment il fonctionne dans sa vie, ses idées sur l'avortement, d'ailleurs, que je connais pas, ça me concerne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son positionnement, la façon dont il s'est dressé, et c'était pas si mal, c'était courageux, c'était quand même un médecin, la façon dont il s'est dressé et dont il a tenu sa position. Moi, j'aime ça, parce que j'appelle ça du courage. C'est un courage. Et plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, la justesse qu'il recherche, il me semble qu'il recherche, et moi, ça m'intéresse. Le reste, ça ne me regarde pas.
Bah, je voudrais rajouter que le mouvement, ce n'est absolument pas une personne, c'est un porte-parole. Et d'ailleurs, si on écoute bien toutes les interventions de Louis Fouché, à des moments, il parle en son nom. Et là, ça n'a rien à voir avec Réinfo-Covid. Et donc, ses interventions politiques, parce qu'il a des interventions politiques, il s'est engagé politiquement aussi dans sa région, ça, c'est Louis Fouché et c'est pas Réinfo-Covid. Et puis, à des moments, il parle au nom de Réinfo-Covid. Et là, il porte la parole d'un ensemble de personnes qui est très nombreux. Enfin, plus de 300 000 maintenant, parce qu'au début, c'était 300 000, mais je n'ai même plus les comptes. C'est 300 000 professionnels de la santé qui sont derrière. C'est énorme. Et il parle au nom de ces 300 000 personnes. Et d'ailleurs, si vous allez sur le Conseil scientifique indépendant, regardez les émissions. Louis Fouché est intervenu sur les sujets qui le concernaient. Mais on va trouver d'autres scientifiques éminents, comme Christian Perron, comme le docteur Louis Soulier, comme le docteur Éric Menat, comme des anesthésistes, des statisticiens comme Vincent Pavant. Martine Vonner aussi, qui est députée. Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue aussi, qui est reconnu. Et en fait, on n'a que des éminents scientifiques qu'on va retrouver, qui ont une expérience réelle et à faire partager leur expérience. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Et donc, pour moi, Louis Fouché fait juste partie de l'ensemble des scientifiques, et avec son approche, et qui nous a apporté, d'ailleurs, Louis Fouché, c'est son expérience de terrain. Parce qu'il est anesthésiste dans un hôpital, et c'est ce qui était intéressant, et d'avoir le quotidien, lui, les gens qu'il avait réellement dans son hôpital, qui arrivaient tous les jours, et qui nous a permis de dire, mais attention, cette maladie, on en fait un monstre, mais en fait, dans le quotidien, lui, il n'avait pas un monstre, il avait une maladie un peu normale, une bonne grippe sévère. D'ailleurs, il y a eu des grippes même bien plus sévères que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Il y a les anciens médecins nous diront qu'il y a des années où la grippe a fait bien plus de morts que ça. Et là, on a laissé... Et ce qui était intéressant, c'est que aussi ce recul des médecins qui disaient, nous, les épidémies d'avant, on n'était pas... Il n'y avait pas cet aspect politique et social qui s'était greffé. On a laissé les médecins gérer. Pourquoi dans cette épidémie on se met le pouvoir politique se met à s'immiscer. D'ailleurs, il y a d'autres mouvements très intéressants, comme laissons les médecins prescrire. Les médecins étaient choqués de se voir interdire d'utiliser des traitements qu'ils connaissaient très bien et qu'ils savent maîtriser. Les médecins étaient choqués qu'on leur demande, qu'on leur oblige aussi à vacciner, parce que c'est à eux de décider si le vaccin est adapté à leurs patients. Et là, moi, j'étais encore... On a un petit stand au marché de Figeac tous les samedis de 10h à midi où on ouvre un instant de parole. Et il y avait un ancien médecin qui s'est fait vacciner, qui est venu nous parler. Parce que chez nous, il y a des gens qui sont vaccinés. En vrai, Réinfo-Covid, c'est pas anti-vax.
Oui, voilà, pas c'était ma tout. Question.
Pas du tout. Nous, on a des gens qui sont vaccinés. On veut simplement que les gens prennent leurs décisions en connaissance de cause. Qui soit libre de choisir s'ils se vaccinent ou ne vaccinent pas, en fonction d'une balance bénéfice-risque qu'ils peuvent mesurer et dire, dans mon cas, je préfère me vacciner parce que je...
Et au-delà de ça, vacciné ou pas vacciné, parce que c'est valable aussi pour les gens vaccinés, est-ce que c'est une vie acceptable de devoir présenter son QR code chaque fois qu'on rentre quelque part ?
Oui, alors ça
concerne tout le monde.
Ça, c'est sur le pass, vraiment. Et ce que je voulais en venir, c'est que ce médecin qui est venu, donc on a discuté pendant une heure, Il était aussi choqué de la façon, parce que lui, il a été médecin, il a vécu des grippes très graves. Et je lui dis, il me disait, mais jusqu'à présent, les médecins ont tout géré sans que la politique s'immisce dans nos affaires, quoi. Et ça s'est très bien passé. Donc là, pourquoi d'un seul coup...
En revient à notre pourquoi.
Pourquoi d'un seul coup, on a cette ingérence du pouvoir politique qui n'y connaît absolument rien à la médecine, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas des médecins là-dedans. C'est des politiciens. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Et pourquoi on ne laisse pas les professionnels faire et suivre les protocoles qui sont déjà en place, qui ont été éprouvés?
Alors, depuis quelques jours s'organise une résistance à Figeac. Devant les jardins de l'hôpital, il y a des gens qui se réunissent tous les soirs. Un mot là-dessus, peut-être?
Oui, alors nous sommes évidemment présents par plusieurs de nos membres dans ce regroupement. Je trouve qu'on a passé un cran, c'est-à-dire, enfin, le gouvernement a passé un cran aussi, parce que là, on n'est plus sur un sujet de santé. En fait, le pass sanitaire, c'est pas un sujet de santé, c'est un sujet
de société.
De société. Parce que qu'on soit pour ou contre le vaccin, de demander à la population, une partie de la population, de contrôler une autre partie de la population, là, on n'est plus sur le même cran. De demander aux gens aussi de s'immiscer dans la santé des gens en leur obligeant d'afficher s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Ça, c'est d'ailleurs même contre la loi actuelle aujourd'hui. Hein. La loi aujourd'hui, c'est la loi Kouchner qui oblige déjà à choisir si on veut accepter un traitement ou pas. Et jusqu'à présent, notamment dans le milieu du travail, le milieu du travail n'a pas à s'occuper justement de la médecine, de l'état de santé des gens.
Et de ce que chacun décide de mettre dans son corps.
Imaginons qu'on fasse pareil sur d'autres maladies, c'est-à-dire si tu as un cancer, en fait, tu dois afficher que tu as un cancer et que tu dises, tu n'iras pas travailler parce que tu as un cancer. Le sida, on s'est insurgé pour le sida pour que les gens arrêtent de dire est-ce que tu as le sida ou pas le sida. On a privilégié ce crime. D'un seul coup, pour le Covid, il faudrait qu'on affiche si on a le Covid ou pas le Covid. Et on affiche si on a le vaccin ou pas le vaccin.
On parle de vaccin, Hervé. Il y a peut-être quelque chose ici à rétablir par rapport à ce mot. Bien entendu, je répète, il n'est pas question de vax ou d'antivax, ce n'est pas le sujet. Hein. Mais on parle de ce terme de vaccin. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. C'est une information génétique qu'on nous injecte. Ce n'est pas un vaccin. Vous voyez, au niveau des mots, il faut rétablir aussi. Donc, qu'il y ait des personnes qui, justement, parce qu'elles se sont informées et parce qu'elles ne croient pas la parole politique qui dit « c'est bon pour vous, c'est pour votre bien », etc. Pendant ce temps-là, on ferme des lits d'hôpitaux et on ne va pas aux soins. On entend comme... est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu parler d'autre chose que de ce pseudo-vaccin? Est-ce que vous avez entendu, depuis l'origine, des politiques vous dire « ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous », des mots rassurants, des mots... De gens concernés qui disent on va ouvrir des lits d'hôpitaux, on va mettre les budgets pour soutenir le personnel soignant. Est-ce que vous avez entendu qu'on propose aux gens des choses basiques et qui marchent comme le zinc, le bisglycinate de zinc, la vitamine D3, la vitamine C, des corrections au niveau de l'alimentation? Est-ce que vous l'avez entendu ça? Pourtant, c'est tellement simple, mais ça ne rapporte pas. Ça rapporte à personne. Ça apporte de la santé, ça rassure, et ça rapporte pas autant que la peur. La peur nous amène à des espèces d'injonctions tout à fait paradoxales, comme on entend « c'est le seul chemin, la vaccination obligatoire, isolement contraint, restriction, droit, pas le droit, les bons Français, les mauvais Français ». C'est un goulag. C'est un goulag. Et il est en train de devenir en plus numérique.
Alors pour revenir justement à ces manifestations, il va retrouver beaucoup de collectifs en fait qui participent à ce mouvement là qui est devant l'hôpital à Figeac, parce qu'on a un point commun en fait. Notre point commun aujourd'hui c'est l'atteinte aux libertés. En fait, on se rend compte que ce nouveau projet de loi, je dis bien projet de loi parce qu'il n'est pas passé.
Projet pour l'instant.
Et d'ailleurs continuons à réagir parce que c'est peut-être le moyen qu'il ne passe pas. Il touche aux libertés des gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui c'est qui vient ici, là ? Ce sont des soignants qui se sentent le couteau sous la gorge, parce que certains avaient décidé de ne pas se faire vacciner. Et d'un seul coup, on leur oblige. Et c'est soit ils suivent, soit ils perdent leur emploi. Donc on est sur quelque chose de grave. Mais pas que les soignants. Et il y a plein d'autres personnes qui se retrouvent dans le même état parce que leur employeur leur fait pression pour qu'ils se vaccinent. Et donc il y a une ingérence déjà sur la santé des gens, je trouve inadmissible.
Et on en revient à notre pourquoi. Pourquoi vacciner les enfants? Pourquoi leur avoir collé un masque sur le visage pendant des mois alors qu'il y a eu suffisamment d'études pour prouver que c'était extrêmement délétère pour leur santé psychique et physique? Et se repose la question de ce pourquoi. Pourquoi ? On ne parle pas de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. On a environ 180 000 décès par an. Pourquoi on n'en parle pas ? Les cancers, il y a à peu près 140 000 personnes qui décèdent par an. Pourquoi on n'en parle pas ? Il y a des sujets là. Comment ça se fait qu'on ait saisi à ce point-là, qu'on est dramatisé, amplifié, et sur un plan planétaire? Moi, je me pose vraiment la question du pourquoi. Un virus qui finalement préserve 99,7% de la population. Pourquoi?
Voilà. Et donc, si on revient sur ce mouvement, qu'est-ce qui nous fédère dans ce mouvement? Eh ben, en fait, on s'aperçoit que c'est cette atteinte à nos droits, en fait. Alors que le contexte ne justifie pas les mesures aujourd'hui, c'est ça, ce décalage entre les mesures qui sont prises et le contexte, qu'il soit économique, social, mais aussi scientifique et médical, on comprend pas cette mesure. Et en même temps, les conséquences des mesures, elles sont énormes, parce que pour garder son intégrité, il faut perdre son emploi. Ça veut dire ça, c'est-à-dire on rentre dans quelque chose de très grave. Les gens sont, on retrouve, si je vous invite à venir, vous allez voir, les gens, c'est dramatique. Allez voir les gens, c'est dramatique, parce qu'ils sont certains sont dans une situation de panique totale, parce qu'ils sont en dissonance totale, parce que dans leur fort intérieur, ils aimeraient ne pas se faire vacciner, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le vaccin actuel. Ou parce qu'ils ont choisi une autre médecine, c'est leur droit, et ils ont décidé de se soigner autrement que d'être dans la médecine allopathique, pour certains. Et puis, en face, on leur dit, vous n'avez pas le choix, mais en plus, et si vous ne respectez pas, vous ne pourrez rien faire, parce que c'est une discrimination énorme qui nous attend, et en plus, vous allez peut-être perdre votre emploi.
Merci beaucoup. Donc, pour avoir plus d'informations sur Réinfo Covid, il y a un site internet, Réinfo Covid. Il y a également un mail, me semble.
Oui, alors si vous voulez nous joindre en local, c'est réinfocovid46, tout attaché, @gmail.com. Donc là, c'est si vous voulez avoir des renseignements ou rejoindre le collectif, il suffit de nous envoyer un mail sur cette adresse et on vous répondra.
Et puis, je vous invite aussi à aller rendre visite aux gens qui se mobilisent tous les soirs devant les jardins de l'hôpital à Figeac. Ils se mobilisent tous les soirs à 20h.
C'est ça, oui. Il y a un recoupement à 20h. Et ça devait s'arrêter ce soir, mais vu le contexte, ça va durer tant que la situation va l'exiger. Voilà.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci.